Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, nous ne pouvons vivre que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet storiavoce.com dans la rubrique « Soutenez Storia Voce ». Vous y trouverez de nombreux livres et contre un don, vous pouvez recevoir un livre de votre choix grâce à un de nos éditeurs. Partenaire. Alors, quand on demandait à Khrouchtchev s'il considérait que Léonid Brejnev pouvait être son dauphin, il répondait goguenard et moqueur, n'importe qui sauf cet imbécile. Léonid Brejnev, né en Ukraine en 1906, succède pourtant au bouillonnant Nikita Khrouchtchev en 1964. Or, étrangement, Brejnev n'apparaît pas comme une grande figure du panthéon des génies du communisme soviétique. Ambitieux, fourbe, pleutre, certains le considéraient même, je cite, comme une carpette, un beau parleur, bref, une personnalité sans personnalité. Storia Voce vous propose aujourd'hui un autre regard sur ce personnage qui est resté pas moins de 18 ans au pouvoir. Brejnev était-il un vieillard sénile, un gendarme qui a écrasé le printemps de Prague et occupé l'Afghanistan? Était-il un cynique qui a laissé prospérer la corruption, les pénuries et a plongé son pays dans la stagnation? Ou bien au contraire, était-il un héros militaire qui a ressoudé les Russes, ou bien même un diplomate rusé qui a tout simplement éloigné le spectre de la Troisième Guerre mondiale? C'est ce que nous allons voir avec Andrei Kossovoy. Andrei Kossovoy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université de Lille. Nous avons un maître commun, Georges-Henri Soutou. Je suis très content d'ailleurs à cet égard de vous recevoir à ce micro. Et je renvoie nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons pu enregistrer avec Georges-Henri Soutou sur la guerre froide. Peut-être un mot sur Georges-Henri Soutou.
Je garde un souvenir ému de ma première expérience dans les archives. Là où vraiment j'ai découvert ma vocation d'historien, et c'est grâce à Georges-Henri Soutou que j'ai eu cette expérience, puisque j'étais à l'époque à Paris 4 en histoire, en maîtrise, à l'époque ça s'appelait la maîtrise, aujourd'hui c'est le master 1, et il nous donnait un sujet au choix, et moi j'avais choisi donc les relations franco-soviétiques de 1927 à 32, et direction les archives à l'époque du Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères français. Et en ouvrant ces vieux dossiers poussiéreux, pas si vieux que ça évidemment, hein, c'est le 20e siècle, mais quand même, j'ai éprouvé ce qu'un historien normalement doit éprouver, hein, quand il découvre sa vocation, cette espèce de frémissement, d'émotion extraordinaire qui nous envahit. On se croit seul au monde avec ce document, avec ces personnes qui ont vécu autrefois. Et là, vraiment, j'ai compris. C'est ce que je voulais faire plus tard. Et c'est encore une fois grâce à Georges-Henri Soutou. Hein, c'est lui, mon maître, je pense, c'est celui qui m'a vraiment initié à la recherche historique.
Vous venez de publier un Brejnev, l'anti-héros, paru aux éditions Perrin dans la collection Biographie. Alors peut-être un mot d'ailleurs sur les archives. Est-il difficile d'y accéder aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu accéder par exemple aux archives russes?
Vous imaginez pas à quel point c'est compliqué pour quelqu'un qui déjà ne serait pas, on va dire, versé dans les arcanes des archives, ou la manière de procéder pour accéder, ne serait-ce qu'à obtenir un document, un laissez-passer. On est très bureaucratique, on a toujours été très bureaucratique en Russie depuis très longtemps, depuis l'époque des tsars. En Union soviétique, ça s'est pas arrangé, et aujourd'hui, après 91, malgré la fameuse révolution des archives, n'est-ce pas, dont on a beaucoup parlé, eh bien, on est toujours resté très, très pointilleux, remplir les papiers convenablement pour obtenir tel ou tel dossier, etc. Bien sûr, il faut déjà venir en Russie, il faut choisir en amont quelque chose qui nous intéresse et susceptible d'être disponible. En ce qui concerne Brejnev, évidemment, la majorité, la bonne partie de la documentation reste encore une fois secrète. Elle a commencé à être déclassifiée au cours des années 2000, officiellement. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les archives présidentielles, si vous voulez, qui concentrent l'essentiel des archives les plus recherchées par les historiens contemporanéistes. Et ces archives présidentielles, disent-ils, au compte-gouttes, quelques dossiers chaque année qu'il donne à des archives d'un niveau inférieur et charge à ces archives d'un niveau inférieur de vérifier qu'il n'y a rien de confidentiel selon leurs critères à eux, quoi. Et ensuite, de mettre à disponibilité des chercheurs. Tout ça prend un temps fou. Et encore une fois, je répète, hein, c'est le chercheur de base, l'étudiant ou l'historien chevronné, hein, doit être confronté tout le temps à cette bureaucratie pointilleuse. Vous n'avez pas bien rempli votre demande de dossier, vous n'avez pas signé où là où il faut. Ça peut vous retarder, vous pouvez perdre un temps fou à chaque fois avec ces histoires, sans compter, bien sûr, des horaires d'ouverture qui sont problématiques. Dans mon cas, pour Brejnev, il y a eu aussi un déménagement. Les archives donc de l'histoire contemporaine ont déménagé, ça a pris évidemment plus de temps que prévu comme toujours en Russie, et du coup l'ouvrage évidemment a été retardé d'autant, mais à la fin encore une fois, la satisfaction de l'historien devant le papier dont il a peut-être entendu parler, mais qui voit enfin de ses propres yeux, quoi, il découvre, c'est extraordinaire. Oui, et il faut pas oublier aussi, très important, il y a les archives, mais en ce qui concerne les sources, il y a aussi ce qu'on appelle les carnets brejneviens.
Exactement. Alors, j'allais y venir. Brejnev a énormément écrit.
Tout à fait. Il a écrit... Alors, faut s'entendre sur le mot écrire. Hein. Quand on parle des carnets, donc, il ne s'agit pas d'un journal intime à proprement parler. Ce sont des notes éparses, prises... Alors, d'après ce que les notes publiées, il a commencé à prendre ses notes à partir de 1944, à la toute fin de la guerre. Il est possible qu'il y en ait avant, mais on le saura peut-être plus tard, et il a écrit ses notes jusqu'à l'année de sa mort, jusqu'en 82, début 82, on a quelques notes qui restent. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ses notes, on découvre un Brejnev qui parfois s'autorise en fait des choses assez personnelles. La plupart du temps, c'est des notes de travail, c'est-à-dire il assiste à une réunion, il va prendre des notes de ce que lui disent ses interlocuteurs ou éventuellement ce que lui voudrait dire. Ce qu'il a dit à ce moment-là, leurs réactions, etc., des échanges. Et encore une fois, il faut savoir lire entre les lignes, c'est des notes très laconiques. Ça demande énormément de commentaires, d'exégèse, on va dire, quasiment, contextualisation, etc. Et encore une fois, parfois, on découvre la perle. La perle, c'est-à-dire quelques mentions personnelles, comme cette fameuse mention personnelle de 1964, si je me trompe pas, où il se laisse aller en disant « j'en peux plus, je craque, ce Khrouchtchev est insupportable ». Il le dit pas en ces termes, mais c'est ce que l'on comprend en lisant cette note.
Alors, c'est très important parce que c'est peut-être un premier aspect de la personnalité de ce personnage. Vous entrez dans sa psychologie. C'est que, je crois que c'est Couve de Murville qui dit, vous le citez, que c'est un homme qui sait. Il sait parfaitement les choses, alors que il peut paraître idiot. Il a une capacité d'absorption de l'information qui est assez impressionnante.
Brejnev, c'est encore une fois une personnalité assez mystérieuse. Hein. On a une image du Brejnev complètement vieillissant, limite sénile, en fin de vie, enfin décati, tout ce que vous voulez, sous somnifère, à la fin de sa vie, quand il parle, on comprend pas la moitié de ce qu'il dit. On a l'impression qu'il est sur le point de succomber à une maladie terrible. Mais c'est pas le vrai Brejnev. Encore une fois, il faut se méfier des apparences, déjà parce qu'il y a le Brejnev d'avant cette maladie qui l'accable à la fin des années 70 et qui le rend pratiquement incapable de travailler, mais pas complètement. Et puis, il faut se souvenir qu'il a une carrière qui est très très longue, très très longue, et qui commence dans les années 20 en fait. Il va traverser la période des purges staliniennes, il va survivre, il va être l'un de ces promus de Staline, n'est-ce pas? Et puis, il va faire carrière d'abord en Ukraine, puis on va lui confier toute une république, la Moldavie, puis il va connaître une petite traversée du désert. Voilà, il va, sous Khrouchtchev, obtenir la direction de la République du Kazakhstan, où il va mener, il va tenter d'appliquer la réforme de ce qu'on appelle les terres vierges de Khrouchtchev, la réforme de l'agriculture en consistant donc à améliorer le secteur primaire soviétique, qui est toujours un peu le talon d'Achille de l'économie soviétique. Et puis enfin, il monte au sommet. Il monte au sommet, mais il a une expérience du terrain qui est absolument extraordinaire, hein, très très vaste. Tout le monde s'accorde à le dire. Hein. Et c'est un homme qui a su s'adapter en toutes circonstances.
Alors justement, vous sortez en fait l'homme de cette gang, de cette caricature, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en faire un mythe. Votre approche est historique et réaliste.
Absolument, oui. Il faut autant que faire se peut le rendre historique, c'est-à-dire le prendre au sérieux finalement. On a en France, encore une fois, l'image d'un Brejnev malade, une image négative d'un homme, une personnalité absolument médiocre. Quel intérêt d'écrire une biographie d'un homme médiocre au fond ? C'est ça la question qui est posée. Et en Russie, jusqu'à il y a assez peu de temps, aussi Brejnev avait une image ridicule, d'un homme ridicule. Le nombre d'histoires drôles qui circulaient sur Brejnev,
Vous mettez incroyable. D'ailleurs en tête de vos chapitres toutes ces histoires drôles pour commencer chaque chapitre pour illustrer votre propos.
Absolument, c'est une approche que j'ai déjà utilisée dans un autre de mes livres, La chute de l'Union soviétique, mais qui à mon avis, je le fais avec mes étudiants à la fac, c'est une bonne manière d'introduire quelque chose de sérieux par l'humour, si vous voulez. Déjà parce que c'est difficile de traduire un humour d'un autre pays, et si on y parvient, c'est quand même bien, mais aussi parce que ça nous amène à des choses tout à fait sérieuses. Chaque chapitre, c'est une partie de la vie de Brejnev, c'est aussi, il y a une histoire drôle qui va l'illustrer, et après on va s'intéresser sérieusement à ce qu'il y avait derrière finalement. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est un homme qui est resté au pouvoir 18 ans.
Ce qui est considérable.
Ce qui à l'époque, voilà, on bat le record évidemment de Khrouchtchev. Ce sera plus long évidemment que ses successeurs Andropov, Tchernenko et Gorbatchev, hein, même si voilà, on va dire Gorbatchev, ce sont 6 années qui ont changé le monde, certes, mais 18 ans, c'est quand même long. Et on s'interroge sur cette durée. Le record est bien sûr détenu par Staline, il n'y a pas de doute, mais Brejnev est juste derrière. Et comment comprendre cette durée? Comment est-ce qu'il a réussi à durer? Là, on est obligé de prendre Brejnev au sérieux, encore une fois, de l'historiciser. Et avec les nouvelles sources qui sont à notre disposition, d'expliquer ce qui peut l'être.
Alors, je voudrais qu'on en vienne à ses origines, peut-être. Il n'a pas 11 ans quand la révolution éclate, ce qui est bien évidemment très jeune. Quand est-ce qu'il entre au parti? Quelles sont peut-être d'abord ses origines familiales, et quand est-ce qu'il entre au parti? Et surtout, est-ce qu'il a une vision politique révolutionnaire?
Alors, pour ce qui est de ses origines, il a des origines plutôt modestes, même si son père était ouvrier OS, hein, plutôt, on va dire, spécialisé. Il a quand même monté dans les grades des ouvriers de l'usine ukrainienne où il travaillait. Il fait partie de ce qu'on appelle encore une fois les promus de cette révolution, hein, comme on disait, les derniers seront les premiers. Eh bien, voilà, c'est un fils de prolétaire. C'est comme ça qu'il se présente dans toutes ses biographies, fils d'ouvrier. Il va le mettre en avant dans soit les quelques interviews qu'il donne, soit dans ses pseudo-mémoires, c'est pas lui qui les écrit, hein, qui commence à apparaître à partir de la fin des années 70. Des origines modestes, on est en phase avec, encore une fois, ce qui va être l'ordre du jour de la révolution, c'est-à-dire les derniers seront les premiers, les ouvriers, ceux qui ont une biographie impeccable du point de vue révolutionnaire, donc fils de prolétaire, seront promus. Voilà. Il va entrer au parti dans les années 20, quand il va comprendre, comme beaucoup d'autres, que pour faire carrière, pour monter, il faut absolument entrer au parti. Mais aussi parce que, il faut se rendre compte que tout le monde ne rentre pas au parti à cette époque-là. Tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'y entrer, c'est uniquement si vous avez des ambitions, je dirais, politiques ou d'autres raisons particulières. Brejnev, ce qui le motive, c'est la soif des études. C'est quelqu'un qui a toujours voulu faire des études, obtenir des diplômes. C'est quelqu'un qui va d'abord faire des études d'agronomie, puis ensuite va devenir ingénieur, ou plutôt se rapprocher le plus possible du statut d'ingénieur. L'obtiendra jamais complètement. Et cette soif d'études qui caractérise beaucoup de gens de sa génération, qui ont traversé une période très difficile, encore une fois, la période révolutionnaire qui est suivie d'une guerre civile où les gens ne peuvent pas, évidemment, faire des études. Il vit là où la guerre civile fait le plus de dégâts aussi, c'est ça qu'il faut voir. C'est sa ville natale, en tout cas là où il habite pendant son enfance, elle est successivement occupée, libérée, les rouges, les blancs, les nationalistes ukrainiens traversent, enfin... Et ça va forger aussi sa personnalité, ça. Il va commencer à s'adapter, il va comprendre que rien ne dure finalement.
C'est ce qu'il y a le plus fascinant, c'est cette capacité d'adaptation. Vous citez, et je vais le citer, son premier discours, ou un de ses premiers discours, qui a été retrouvé par l'historienne, je suppose, Suzanne Schattenberg. Camarades, je suis le plus jeune membre du bureau de notre GORKOM, je ne cherche pas à me disculper, je ressens pleinement la grande part de responsabilité que je porte, nous sommes à l'époque de la Grande Terreur, avec l'organisation du parti, de ne pas avoir pu démasquer nos ennemis, or il y avait des raisons et des motifs de le faire. Il a un côté très, très... très anguille en fait. Il sait absolument. S'adapter.
Oui, oui, oui. C'est un, en russe on dit un prispossablenets. C'est des gens qui comprennent que pour survivre, il faut s'adapter. Mais s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas trop la ramener, pour le dire familièrement. Il faut savoir faire son autocritique, et c'est ce qu'il fait dans ce discours. Sans, il faut savoir battre sa coule, admettre ses erreurs quand on vous accuse d'avoir commis des erreurs, et en même temps, savoir ensuite retourner la situation pour dire que oui, j'ai les erreurs, tout le monde en commet, j'en ai commis, mais je vais m'améliorer, je vais utiliser ces reproches, ces critiques qui m'ont été adressées pour devenir un meilleur communiste. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important qu'il faut souligner. C'est que c'est quelqu'un qui a un contact humain, un naturel de contact très important. C'est, on l'appelle un bon massovique dans les rapports. Quelqu'un qui a le contact facile, qui sait se faire apprécier. Alors évidemment, cela va aller jusqu'à l'excès, hein, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à se créer des petits, des groupes de favoris autour de lui, des réseaux, etc. On parlera d'une mafia brejnevienne quand il va monter tout en haut, donc du pouvoir. Mais il est indéniable, c'est que c'est un homme qui sait se faire apprécier, qui sait trouver le contact avec son entourage. Il a du flair aussi. Il a du flair quand même.
Il sent les choses.
Il sent les hommes. Il sait comment les mobiliser, les motiver, puisqu'il va être pendant la guerre un politruk, c'est-à-dire un commissaire politique. On en parlera après.
Oui, on va en parler de la
voilà,
guerre.
Voilà, c'est quelqu'un qui a ce talent inné, hein, et qui l'a appris aussi, évidemment, pendant les années de guerre civile. Un talent inné pour ne pas froisser, et pour s'adapter.
Vous dites qu'il apprend les trois règles du parti. C'est incroyable. Deviner les attentes, satisfaire les désirs des chefs et survivre.
Oui, en russe on dit ugadat, ugadit, utselet. Mm. Ça, en russe, donc les verbes se ressemblent. Vous avez, ça concerne en fait quasiment toute la société. Hein. Ceux qui sont les premiers concernés, bien sûr, ce sont les gens qui sont première ligne de mire en fait au cours des purges, notamment dans les services de renseignement, la police politique. Ceux-là doivent absolument trouver le moyen de plaire à leur hiérarchie, de deviner les souhaits de cette hiérarchie pour survivre. Hein. Cette maxime, cette règle, si vous voulez, non écrite, elle concerne tous les niveaux des communistes, qu'ils soient des communistes de la base, au niveau d'une entreprise, d'une usine, comme les communistes évidemment tout en haut, parce qu'encore une fois, sous Staline, personne n'est jamais à l'abri, personne ne peut se sentir
en sécurité,
jamais. Vous pouvez tomber de l'Olympe du jour au lendemain.
Alors, venons-en à la guerre, et c'est là un peu le côté sombre du personnage et ses limites, c'est que c'est pas un homme de guerre, c'est pas du tout un militaire. Et pourtant, il va essayer à chaque fois de tirer parti de la situation en se mettant en avant.
Oui, c'est le paradoxe de Brejnev. On va l'accuser à plusieurs reprises dans sa vie d'être un lâche, en fait. Par exemple, en 1964... au moment du coup contre Khrouchtchev, hein, lorsque Nikita Khrouchtchev est évincé, et il y a un complot qui se trame, Brejnev, on ne sait pas exactement s'il était vraiment celui qui a pris la tête du complot, en tout cas il était aux premières loges, on va accuser Brejnev d'avoir manqué de courage à ce moment-là, d'avoir eu peur, mais qui n'aurait pas eu peur à sa place, à ce moment-là? Il a connu l'époque stalinienne, il savait ce qui pouvait arriver si le complot échouait. Alors, un homme de guerre lâche, c'est un peu étrange quand même. Les mauvaises langues vont prétendre qu'effectivement, il a tout fait pour limiter sa présence sur le front. Mais il a été sur le front. Hein. Il a participé au combat en tant qu'encore une fois commissaire politique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'occupait d'abord du moral des troupes, de la remise des récompenses, des médailles, contrôler donc l'état général des soldats, si vous voulez. C'était un travail aussi un petit peu administratif, voilà. Mais il était sur le front et à la fin des années 70, au niveau du Politburo, du bureau politique, c'est le seul des membres du Politburo qui a connu la guerre de près. Il l'a connu de près. Et à un moment donné, j'en parle dans mon livre, il a même failli y passer. Hein. Son navire bute sur une mine sur le front sud au niveau de l'Ukraine et il se retrouve à l'eau, il perd connaissance, il est repêché. Il y a quand même un choc. Il est blessé. C'est pas non plus une grande blessure. Voilà. Mais il a été marqué par cette guerre. Voilà. Et cet épisode militaire va ensuite, si vous voulez, orienter une bonne partie de sa politique par la suite. C'est un peu l'axe, c'est un peu le fil rouge de mon livre aussi. C'est comment cet épisode, excusez-moi, de sa vie qui est important, hein, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, il va devenir ensuite partie intégrante d'un mythe, d'un véritable culte de la Grande Guerre patriotique. Et là, on trouve des choses qui sont évidemment très proches de l'actualité, hein. C'est pour ça aussi que ce livre, à mon avis, est d'actualité. Cette instrumentalisation de l'histoire par le politique qui commence vraiment, à mon avis, sous Brejnev et qui va atteindre aujourd'hui, sous Vladimir Poutine, des proportions absolument sans précédent.
Je vous cite, Brejnev est persuadé de tenir sa légitimité de son action pendant la guerre. Son pire cauchemar serait que des historiens viennent à douter de son passé de guerroy, qu'il découvre par exemple le rapport du commissaire Sinyavsky, etc., etc. Il a quand même des choses à non pas à se reprocher, mais à un moment, vous le montrez, il a un poste dans la marine et il dépend, je ne sais plus, d'un général. Et ce général, bon ben, il le regarde de très haut parce que Brejnev n'est jamais monté sur un bateau.
C'est ça, parce que aux yeux des militaires, c'est pas un vrai militaire, Brejnev. C'est quelqu'un qui a fait de la politique sur le front.
Oui.
Et il n'a pas non plus participé aux grandes batailles, Stalingrad, Koursk, etc. Moscou, il n'a pas été là, il était sur le front sud, il a participé à la libération d'un port qui s'appelle Novorossiysk. Et c'est un, j'aurais presque envie de dire un détail de la grande guerre patriotique, ce qui a quand même fait 27 millions de morts. Voilà, et de ce détail, encore une fois, il va tout faire lui-même. C'est la grande question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son entourage? C'est très compliqué, hein. Il va créer ce mythe, ou on va créer ce mythe pour lui, à partir de cet élément-là. Et il va essayer de forcer les militaires à l'aimer d'une certaine manière. Cette méfiance des militaires vis-à-vis de Brejnev, il va les séduire par tous les moyens. Et là, on s'avance déjà un petit peu, mais au cours des années brejneviennes, des années 64-82, surtout les années 70, le secteur de la défense soviétique, on le sait, hein, va obtenir mais tout ce qu'il voudra, hein, en termes de moyens, de budget. Ceci pour que aussi pour que les militaires la ferment sur Brejnev, qu'ils continuent à l'applaudir et qu'ils lui donnent aussi toutes ses médailles. Il continue d'en recevoir jusqu'à sa mort. En fait, il va devenir maréchal, etc. en 76 pour ses 70 ans. Et il y a ce contrat tacite, presque un contrat social finalement, entre Brejnev et les militaires. Et ça, encore une fois, c'est le fil rouge de mon livre.
Quelles étaient ses relations avec Staline?
Alors, Staline, c'est évidemment quelqu'un pour lequel il éprouve le plus grand respect, la plus grande admiration. On ne saura jamais exactement ce qu'il pensait des purges. Évidemment, il était au courant.
Il a participé aux purges.
Lui-même n'a certainement pas directement participé aux purges. Il n'était pas à ce moment-là au plus haut de
fonction. En première ligne.
Voilà, ouais. Au niveau de l'Ukraine, de la République soviétique d'Ukraine. Donc, à la fin des années 30, c'est Khrouchtchev qui est parachuté, qui devient premier secrétaire de la République d'Ukraine, et c'est là qu'ils se rencontrent. Mais ils se voient, ils se côtoient, et que Khrouchtchev certainement décide que voilà, Brejnev c'est son homme, quoi. Brejnev était certainement au courant des arrestations, des déportations. Il se doutait bien que la plupart de ces arrestations n'avaient aucun fondement, que des gens souffraient, etc. Mais encore une fois, ce qu'il voulait lui, c'était faire carrière. Il apprenait, comme tous ces soviétiques, à fermer les yeux sur toutes ces choses-là. Et au fond, sans doute, il se disait, comme bon nombre de soviétiques, que Staline n'était pas responsable. Staline n'était pas au courant. Les vrais coupables, c'était les gens de la base. Il y avait eu des excès, mais le grand Staline, lui, il savait la vérité. Il corrigeait les excès, quoi. Et il faut s'imaginer que c'est quand même grâce à Staline que Brejnev a connu, si vous voulez, cette première grande ascension à partir de 1952, hein, toute fin de l'ère stalinienne, en 1952. Au 19e congrès, juste après le 19e congrès du Parti communiste, Brejnev va être nommé au sein du Politburo par Staline, l'objectif étant d'éliminer la vieille garde, de la repousser, peut-être qu'une purge était en préparation à ce moment-là, et encore une fois, Brejnev fait partie de ces nouveaux promus appelés à remplacer l'ancienne génération.
Donc il arrive au moment.
Il doit tout à Staline à ce moment-là. Et il a un immense respect pour lui. On a une photo, vous avez cité tout à l'heure l'historienne allemande Suzanne Schattenberg, qui est l'auteur en fait de la première biographie scientifique sur Brejnev, qui est parue en allemand et qui a été traduite en russe ensuite. Elle a mis en couverture une photo de Brejnev prenant la pose stalinienne pendant la guerre, devant un miroir avec une pipe, la fameuse pipe de Staline. Est-ce que c'était une manière, non, c'était pas une manière de se moquer de lui, mais est-ce que c'était par respect, par le désir de lui ressembler? Il y avait certainement une grande admiration chez Brejnev pour Staline, d'où aussi une réhabilitation de Staline rampante sous Brejnev.
On n'a pas dit c'est un homme de théâtre. C'est un homme qui aime bien se mettre en scène et qui sait se mettre en scène.
Voilà, il faut quand même aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce personnage, il est plein de surprises au fond. Il a été, dans sa jeunesse, il a beaucoup apprécié la poésie, il lisait beaucoup Mayakovsky, Yesenine, les grands poètes à la mode à l'époque, mais bon, quand même, il connaissait beaucoup de poèmes par cœur, il était capable de les réciter avec emphase bien des années plus tard, etc. Et il a participé, il a monté quelques pièces, et effectivement, au sein d'une troupe. Et il y a un côté Brejnev acteur, qu'on a certainement aussi d'une certaine manière chez Khrouchtchev, si vous voulez, hein, les gens qui avaient cette forte personnalité bouillonnante, etc. Mais chez Brejnev, c'était beaucoup plus contenu, si vous voulez. Voilà. Et ce talent d'acteur, hein, c'est indéniable, et il va l'avoir, ce talent d'acteur, de séducteur. Il va l'utiliser plus tard, quand il sera donc au sommet du pouvoir, quand il va partir à l'étranger, rencontrer les grands hommes d'État étrangers, qu'il va tisser des liens avec ces gens-là, avec Pompidou, avec Willy Brandt, avec Nixon, surtout son grand ami Nixon, pendant le sommet de 73 à Washington, par exemple. Nixon, dans ses mémoires, va écrire qu'il n'a jamais vu ça. Un Brejnev, visiblement, effectivement, prenant un grand plaisir à jouer, à interpréter le diplomate aimable, n'est-ce pas, beaucoup plus qu'il n'avait été à Moscou hein,
en 72. Oui.
Voilà. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, en 73, Brejnev est au milieu de sa forme, malgré le poids des ans déjà quand même.
Alors, je vous cite, c'est au début de votre livre, mais ça illustre aussi la suite. Brejnev n'administre pas en faisant régner la terreur, en insultant et en menaçant ses subordonnés de sanctions sévères, mais il les motive avec un mélange de fermeté, d'humour, en utilisant le « nous » collectif. C'est un... On appellerait ça aujourd'hui un bon manager. Et d'ailleurs, vous utilisez après l'expression de PDG de l'URSS, c'est un bon PDG.
Absolument, oui, tout à fait. C'est cette tendance managériale, on va dire, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est quelqu'un qui rompt avec...
Il sait se faire aimer, vous le disiez tout
oui,
à l'heure.
Oui, il sait se faire apprécier, aimer, c'est un séducteur. Et il a bien vu ce que le style des dirigeants peut avoir comme impact sur leur entourage. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout, il n'a pas les moyens, mais il ne souhaite pas régner par la peur, comme le faisait Staline. C'est la peur qui était la motivation, l'émotion principale pendant les années 30, 40, début 50. Ensuite, Khrouchtchev, l'homme imprévisible par excellence. Ses accès de colère qui sont devenus légendaires. La fameuse chaussure sur la table à l'ONU, etc. Enfin, tout ça, Brejnev n'en veut pas. Hein, et puis les insultes qui pleuvaient sur ses subordonnés à l'époque de Khrouchtchev. Le premier d'entre eux, c'était évidemment Brejnev, qui se faisait copieusement insulter du matin au soir, quasiment, à partir de l'époque où il y avait de plus en plus de problèmes en Union soviétique, c'est-à-dire les années 62-64. Les réformes de Khrouchtchev montraient toutes leurs limites. Vous aviez la crise de Cuba, etc. Khrouchtchev avait été humilié, donc il se défoulait sur son entourage. Et Brejnev en prenait pour son grade. On avait dit tout à l'heure... qu'il l'avait traité d'idiot, mais c'était l'une des insultes les plus gentilles que Khrouchtchev utilisait. Voilà. Brejnev, par exemple, dans ses fameuses notes, ses carnets, on trouve des traces d'insultes, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Et j'en parle de ces insultes qui visent certaines personnes parfois, mais c'est tellement plus modéré que ce que l'on a pu entendre dans la bouche d'un Khrouchtchev. Donc c'est un style, effectivement, d'administration, de direction, un mélange à la fois de fermeté, comme vous l'avez dit, et de d'humour. Il manie l'humour. Khrouchtchev manie aussi, d'une certaine manière, l'humour, mais c'était un humour, entre guillemets, beaucoup plus primitif, beaucoup plus brut, quoi. Alors qu'avec Brejnev, on est... oui, on a des retranscriptions de discours dans ces fameux, dans ces archives dont j'ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, on pourrait se dire quoi de plus ennuyeux qu'un discours sur l'état de l'agriculture ou les dernières avancées en matière d'industrie légère, etc. Mais Brejnev sait faire apprécier les thématiques les moins intéressantes par son auditoire. Il trouve le moyen, en tout cas moi j'ai été saisi par ce talent, effectivement, de présenter les choses de manière intéressante et après de faire participer le public aussi. Et on a des répliques qui sont données ici ou là et qui montrent que c'est un homme qui sait écouter aussi. Ça c'est très important, le côté collégial de Brejnev.
Alors, il y a énormément de sujets à évoquer. J'aurais voulu évoquer la conquête spatiale parce que il joue un rôle et il a un rôle dans ce moment majeur. On a tendance à l'oublier, mais l'URSS est la première à mettre sur orbite un satellite qui, vous le dites, se contente d'envoyer un petit signal, mais cela constitue un exploit. Alors, je renvoie nos auditeurs à votre livre. Peut-être parler de 1964. C'est le plus capable qui vient au pouvoir à ce moment-là et qui pousse à la retraite Khrouchtchev.
En 1964, les témoignages dont on dispose, évidemment, on va pas trouver dans les archives russes de documents sur ce complot. Hein. Par définition, un complot, c'est secret, donc des sources orales, des mémoires de témoins. Les gens à l'époque ne voyaient pas Brejnev comme une menace. Ils le voyaient comme une personnalité de transition. Il fallait trouver un remplaçant à Khrouchtchev, quelqu'un qui soit accepté par à peu près tout le monde, qui ne fasse peur à tout le monde, à personne. Hein, il fallait surtout pas un Beria ou un nouveau Staline, évidemment. Il fallait quelqu'un de consensuel qui se fasse apprécier du plus grand nombre. Et c'est Brejnev qui s'est retrouvé. Et à ce moment-là, il occupait le poste de président du présidium du Soviet suprême, le parlement soviétique. C'était un poste décoratif, purement honorifique, si vous voulez. Hein. Donc c'était pas un homme à même d'inspirer la crainte. On ne l'imaginait pas comme quelqu'un qui allait vouloir liquider tous ses adversaires potentiels. Et c'est ce qu'il va faire au début. Hein. Il va y avoir une nouvelle direction collective qui va être mise en place, un peu comme après la mort de Staline en 53, mais une direction collective qui va produire de meilleurs résultats que celle qui avait été créée en 53. L'homme fort en 1964, d'ailleurs, c'est pas tant Brejnev que Kosygin. En tout cas, le plus expérimenté, c'est Alexei Kosygin. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire que oui, il y avait Kosygin, c'était le premier ministre, mais tout le monde se rendit compte que c'était Brejnev qui allait finalement l'emporter. Je suis pas certain. Le Brejnev de 64, c'est pas le Brejnev de la fin des années 60, début 70. Cette ascension brejnevienne va se faire de manière très graduée, très douce, hein, sans à-coup, sans coup de théâtre, si vous voulez. C'est l'ascension de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, qui avance ses pions de manière très calculée, encore une fois, sans froisser, sans froisser le moins de monde possible. S'il veut envoyer quelqu'un à la retraite, il va le faire en toute discrétion. Voilà. S'il y a un conflit, il va essayer de limiter la casse à chaque fois. C'est un homme qui sait parler à son entourage, qui sait se faire apprécier jusqu'à la fin de sa vie. Et on retrouve aujourd'hui, hein, après une période où il avait été complètement décrédibilisé, on le considère comme une nullité absolue, on trouve chez les Russes cette nostalgie de l'époque brejnevienne et de Brejnev aujourd'hui. D'un homme capable de se faire apprécier, de se faire aimer, le bon grand-père. Un homme qui a fait tout ce qu'il a pu pour sauver cet empire soviétique qui déjà montrait à ce moment-là des fissures, qui se fissuraient. L'affaire de la Tchécoslovaquie, évidemment, c'est la première grande fissure en août 68. Après, il y a eu la Pologne, etc. Et puis, c'est une période où, quand même, on a l'impression que l'Empire soviétique était à son apogée aussi. Mmh. Hein, quand on pense aux aventures africaines, dans le tiers-monde, etc., on a une puissance militaire très impressionnante. On a un Empire soviétique qui fait peur, qui impressionne. Et c'est cette peur, le fait de vouloir impressionner, si vous voulez, le monde. On retrouve ça dans la politique de Poutine aujourd'hui aussi. Mmh. Il faut qu'on nous craigne. Et c'est ce qui se passait à l'époque avec Brejnev. Sauf que Brejnev, il avait un visage autrement plus humain, excusez-moi, que celui du président russe actuel. Mmh. L'humour de Brejnev.
Alors, il y a quand même une ambivalence chez lui, parce que vous parlez de Prague, vous parlez de la Pologne, il y a aussi l'Afghanistan, il prend des décisions qui sont des décisions militaires, et parallèlement, vous le montrez, quasi copain avec Nixon, en 72, en 73, il y a une volonté pacifique, là, pour le coup, dans sa politique.
Il faut donc.
C'est qu'il faut maintenir au fond l'Union soviétique telle qu'elle est, et d'un autre côté, en politique extérieure, la politique étrangère qui pour lui est un peu un mystère. Vous le citez à un moment, il dit ne rien y connaître.
Oui, c'est tout sauf un idéologue, hein, Brejnev. C'est tout sauf un idéologue. Il n'a jamais compris, apprécié, même s'il a dû travailler dans la propagande, les notions de la lutte des classes, l'impérialisme, l'affrontement Est-Ouest. etc. Tout ça, ça l'ennuie profondément. C'est un homme qui est pragmatique, par nature, un pragmatique. Lorsque Nixon, par exemple, en 73, là, au début du sommet de Washington, lui dit qu'est-ce que c'est que ça ? Je lis la traduction de la presse soviétique. On me traîne quasiment dans la boue. Enfin, on m'a traîné dans la boue à l'époque du Vietnam. Après, en 73, les Américains viennent de se retirer du Vietnam. Mais on a une presse soviétique encore très anti-américaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et Brejnev lui glisse : ne croyez pas ce qu'on écrit chez nous. C'est pour nos soviétiques. C'est pour la population. Croyez-moi. Et juste moi, ce que je vais vous dire ici aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui compte. Mais il est sincère. Il a toujours été ennuyé par l'idéologie. Le grand idéologue du comité central, Boris Ponomarev, il ne l'apprécie pas du tout. Il fait le tout pour ralentir sa progression dans sa carrière, etc. Il a une vision des choses qui se rapproche encore une fois d'un manager, d'un PDG, quelqu'un qui dit oui bon l'idéologie c'est bien, on a effectivement un adversaire capitaliste, mais il faut tout faire pour qu'on coexiste ensemble, pour qu'il y ait cette détente. Il faut qu'on fasse le maximum pour trouver des points d'accroche entre nous, parce que l'objectif quand même c'est que on puisse tisser des liens commerciaux. Notamment pour Brejnev, l'objectif c'est d'avoir cette fameuse clause de la nation la plus favorisée, qui serait décerné par les Américains, de renouveler le contrat, le traité de commercial avec les Américains, qui permettrait aux Soviétiques d'obtenir des moyens pour mettre en place des réformes indispensables. Il le sait, des réformes indispensables dans l'agriculture et l'industrie. Voilà, comme ça a toujours été. Il est, d'une certaine manière, léniniste. Donc Lénine aussi a été un homme très pragmatique hein, en son temps. Lorsqu'il a lancé la NEP en 1921, tourner la page de la guerre civile, tourner la page du communisme de guerre, ouvrir la porte au capitalisme, c'est du pragmatisme, c'est Lénine. Et donc Brejnev n'est pas non plus quelqu'un qui innove complètement hein, à ce niveau-là, bien sûr.
Mais alors justement, est-ce que cette ambivalence n'est pas au fond une contradiction qui constitue un des éléments clés, vous le disiez, vous avez écrit un livre sur la chute de l'Union soviétique, un élément clé, cette contradiction de la chute de l'URSS ?
Il y a bien sûr une contradiction insoluble entre des objectifs idéologiques et des objectifs de grande puissance. Voilà. Comment concilier ces objectifs, c'est-à-dire à la fois se poser en grande puissance communiste qui doit diffuser son modèle, conquérir, comme on dit, les cœurs et les esprits des gens dans le monde, voilà, par la propagande. Il faut donc évidemment lutter contre cet ennemi impérialiste condamné par les lois de l'histoire marxiste, léniniste, etc., à disparaître. Et en même temps, défendre des objectifs de grande puissance, des intérêts de grande puissance, s'entendre avec les grands de ce monde, passer des accords avec eux, démilitariser, etc. Parce qu'il y a aussi ça qui est très important chez Brejnev, c'est éloigner le risque de guerre. Éloigner le risque de guerre. C'est un objectif de grande puissance. Brejnev, je pense, secrètement a nourri le dessein d'obtenir le prix Nobel de la paix. Et comme on sait, c'est Gorbatchev qui va finir par l'obtenir. Mais d'une certaine manière, le terrain, les graines ont été semées à l'époque de Brejnev. Le fameux accord de 87 de Washington sur les missiles à portée intermédiaire, il a été préparé en amont par Brejnev avec les traités SALT 1 en 72 et SALT 2 qui a été signé en 79 à Vienne.
Voilà. Alors, vous présentez comme un homme qui panse les plaies d'un pays. Est-ce qu'il rencontre les aspirations de la société ?
Cette dimension sociale est tout à fait essentielle. Ce livre ne parle évidemment pas que de politique étrangère. Il y a une présence très importante de la société soviétique dans ce livre. Parce que dans les carnets brejneviens, déjà, qui sont la source la plus proche, qui nous permettent de se rapprocher de la manière la plus proche de Brejnev lui-même, parle de la population. Donc, on trouve souvent cette formule, le peuple est content. Le peuple est content. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Brejnev, c'est quelqu'un qui va passer des heures et des heures à appeler les responsables régionaux, républiques, provinces, etc., ville, pour les demander comment ça va sur le terrain, au niveau des récoltes, et puis au niveau de l'industrie. Est-ce que vous avez besoin de moyens supplémentaires ? Est-ce que vous comptez ouvrir une annexe de l'Académie des sciences ? Enfin, ce genre de choses. il va passer énormément de temps avec ces gens-là pour, et en fin de compte, la fameuse question, c'est est-ce que la population est contente? Et on pourrait se dire, mais c'est quoi cette question quand on sait que les magasins à l'époque brejnevienne, surtout dans la deuxième partie des années 70, sont vides? On vit dans un régime de pénurie. Les files d'attente, c'est un phénomène presque normal, hein, à l'époque soviétique. Est-ce qu'il est ignoré à tel point la situation sur le terrain? Sans doute oui. Il faut savoir que tous les hommes de son niveau et même de niveau inférieur avaient un certain nombre de privilèges et qu'ils avaient des magasins toujours approvisionnés, donc ils connaissaient pas la réalité sur le terrain, évidemment. Mais il est indéniable que pour Brejnev, la population doit obtenir ce qu'elle veut, elle doit être heureuse, il faut qu'on lui donne la paix, d'où la politique étrangère, le rapprochement avec la grande puissance américaine, etc. Et puis en même temps, il faut faire le maximum pour que ça porte ses fruits au niveau de l'économie. Voilà. Il se rend bien compte que les choses ne vont pas aussi bien qu'elles pourraient l'être. C'est quelqu'un qui est loin d'être aveugle. Hein. On le voit dans ses notes, on voit dans les rencontres qu'il fait.
Il voit les limites du système.
Avec les responsables. Voilà, il voit quand même les limites du système. Mais il faut comprendre qu'à partir d'un certain moment, à partir en gros du milieu des années 70, les problèmes de santé vont commencer à prendre le dessus. Et il va de plus en plus, j'ai envie de dire, se focaliser sur ses problèmes intérieurs. Et on va retrouver ça dans ses notes. Par exemple, il va se peser de plus en plus, il va s'inquiéter de ses problèmes de poids. Et il va mettre dans ses notes ce poids. Et on va trouver des choses tout à fait, enfin, qui nous paraissent ridicules, effectivement, qui font que Brejnev a aussi, bien sûr, cette dimension ridicule. Il va écrire, je me suis rasé, j'ai pris une douche, je me suis lavé, je me suis fait masser. Enfin, ce genre de choses, et on se dit, mais comment comprendre ça autrement que parce qu'on a face à soi un homme qui est en train de peut-être de perdre la raison, en tout cas le sens des réalités, quoi. Voilà. Mais si on revient à la question de l'Afghanistan, ça c'est une question à mon avis qui est tout à fait essentielle. Est-ce qu'il a sa part de responsabilité dans cette guerre qui va durer 10 ans, 79-89, qui est un peu le Vietnam soviétique?
Exactement.
Voilà.
Parce que au fond, tout est en place dès son parce qu'il meurt en 82 d'un infarctus, tout est en place pour faire tomber le régime. Solzhenitsyn, Sakharov, Jean-Paul II, la Pologne, la troisième corbeille sur les libertés à Helsinki. Ce sont des moments qui annoncent la fin, même si très peu considèrent la fin.
Ouais, parce que 75, donc quand on parle Helsinki, c'est considéré comme l'apogée de la détente. Mais si on se place dans le contexte de l'époque, hein, l'horizon d'attente, comme on dit chez les historiens. Bah, pour Brejnev, Helsinki, c'est pas le début de la fin. C'est plutôt le triomphe de tout ce qui a été préparé plus tôt. À Helsinki, Brejnev obtient, et l'Union soviétique obtient la reconnaissance des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc un objectif de sécurité qui est atteint et quelque chose qu'on n'avait pas pu atteindre ni sous Staline ni sous Khrouchtchev. Helsinki, c'est un peu la fin du processus amorcé à Yalta, si vous voulez. Donc pour lui, à ce moment-là, tout va très bien, tout va très bien. Sauf que, toujours en 75, il va y avoir ces problèmes de santé qui vont émerger et il va commencer à perdre pied, effectivement, et moins comprendre ce qui se passe. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a pas mal de gens avec lesquels il était très proche au niveau international qui vont partir. Nixon, le scandale du Watergate, il part en 74. Pompidou, qui était quelqu'un de très proche aussi, avec lequel il avait tissé de bonnes relations, va disparaître aussi, va mourir. Et puis Willy Brandt, qui va devoir démissionner à la suite d'un scandale d'espionnage. Ces trois personnalités avec lesquelles il avait forgé cette architecture de la détente. Et je crois que là, il faut aussi réévaluer le rôle de Brejnev. Hein, c'est voilà, quelqu'un qui a énormément fait pour construire cette détente. Qui bien sûr est contradictoire, elle a ses limites, etc. Mais elle a bel et bien existé. Et pendant un court moment, ce sentiment de peur hein, qui a pu exister en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, face à la perspective d'une guerre nucléaire, a cédé la place à un espoir de paix, si vous voulez. Et ça, c'est à Brejnev qu'on le doit.
Je cite un journaliste belge que vous reprenez, spécialiste de l'Afrique, et il dit « Léonid Brejnev, c'est l'homme dont nous avons besoin pour le moment. Lénine a lancé la révolution, Staline l'a radicalisé, Khrouchtchev l'a humanisé, Léonid Brejnev est venu à point pour l'équilibrer. »
C'est ça, c'est cette image de stabilisateur qu'on va garder finalement de Brejnev. Avec Brejnev, les soviétiques vont connaître une période quand même de prospérité relative, bien réelle, bien, bien réel. Ils vont entrer dans une période d'ère de la consommation. Ils vont connaître une période de paix durable, durable. Avec encore une fois en fin de course l'Afghanistan, bien sûr, on peut pas le nier. Mais entre les années 64, en 64 et 79, on a cette longue période de paix, de stabilité et d'où aussi encore une fois cette nostalgie qu'éprouvent bon nombre de Russes qui ont connu cette période aujourd'hui.
Il équilibre, c'est-à-dire qu'il fait avancer les choses.
C'est tout le problème des réformes, si vous voulez. On a eu Kosygin, son premier ministre, donc qui a lancé une réforme discrète, mais bien réelle, dans les années 60, qui a fait ses preuves. Le problème, c'est que si on allait jusqu'au bout de cette réforme, eh bien, on allait finalement abolir le système économique soviétique, la centralisation, la planification, le principe intangible de l'économie soviétique, c'est-à-dire l'absence de chômage. On a des entreprises qui commencent avec cette réforme à fonctionner, à produire, mais on met des gens à la rue, si vous voulez, parce que l'objectif en URSS, c'était qu'il n'y ait pas de chômeurs, que tout le monde travaille, quoi. Et du coup, Brejnev va se retrouver face à ce dilemme, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On continue les réformes, mais comment? Et en fin de compte, on va arriver à une période de stabilisation qui va se muer en stagnation. C'est-à-dire que plus rien ne va bouger, ni au niveau des cadres, dirigeants, avec quelques exceptions. Gorbatchev, évidemment, grande exception, hein. C'est l'un des grands promus de cette période. Mais la plupart du temps, voilà, on stagne, ça bloque, l'économie, on essaye de faire des réformettes ici, là. Mais il y a des problèmes qui sont énormes qui apparaissent à ce moment-là. En fait, l'Union soviétique va rater cette fameuse troisième révolution, la révolution de l'informatique. On va s'en rendre compte dans la deuxième partie des années 70, surtout. Jusqu'au milieu des années 70, on a l'impression que l'Union soviétique a l'avenir pour elle, finalement, que c'est un modèle qui peut fonctionner, quoi. Et on parle à l'époque de convergence entre le capitalisme et le communisme, etc. On a toutes ces théories qui se développent. Donc, tout dépend finalement de l'année où on se place. Si on se place à la fin du règne brejnevien, on a l'impression que c'est la catastrophe, que l'Empire va bientôt s'écrouler. Si on se place au début des années 70, c'est loin d'être le cas. Voilà, donc c'est cette espèce de tentative de remettre les choses dans leur perspective, de retrouver cet horizon d'attente que j'ai essayé avec de faire avec ce livre.
Eh bien, merci beaucoup Andrei Kossovoï. Donc Brejnev, l'anti-héros, un ouvrage paru chez Perrin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous.